infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, manipulateurs radio. Ils nous accompagnent dans les épreuves, mais aussi dans les plus beaux moments de la vie. À travers une série de podcasts, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers leur donne la parole. Ces femmes et ces hommes racontent les fragments d'un quotidien au cœur de l'hôpital. Quels moments ravivent leur vocation? Quels patients les ont marqués? Bienvenue dans Histoire d'Hospitalier, la série de podcasts de la MNH, réalisée en partenariat avec Chérie FM.
Alors moi je m'appelle Lou, j'ai 39 ans. Je suis infirmière depuis 2016 et je travaille en salle de surveillance post-interventionnelle, c'est-à-dire salle de réveil où je fais la surveillance des enfants puisque je travaille en pédiatrie qui viennent de subir une intervention chirurgicale plus ou moins lourde selon pourquoi ils passent au bloc. Alors moi je suis née en 1983. Les années 90, c'est l'explosion du hip-hop en France. Il n'y a que ça à la radio, en fait. Et au final, je suis tombée dedans, comme Obélix est tombé dans la potion magique, quoi. Je pense qu'à ça. Je passe ma vie à regarder des vidéos, à écouter de la musique. C'est devenu mon mode de vie. Et puis ouais, le lycée, je rencontre des danseurs. Je vais danser dans les centres commerciaux le soir, après les cours. La danse, c'est transcendant pour moi. Je me sens... Pff, c'est ma liberté. En fait, déjà, je danse depuis que je suis toute petite. Quand j'ai 4 ans, je tape des pieds partout, je gigote partout. Ma mère, elle me dit, il faut que tu ailles faire des claquettes, c'est pas possible. Du coup, j'ai commencé par faire des claquettes, donc rien à voir, mais j'ai adoré ça. Mais après, comme ma passion, c'est le hip-hop et que je suis fascinée par ces danseurs, et ben forcément, à un moment, mon corps décide tout seul. C'est-à-dire que je danse tout le temps. Et en plus, quand je danse, quand je dis c'est transcendantal, c'est que je sors de mon corps, en fait. C'est un espace de liberté absolue. C'est une bouffée d'air. C'était mon moment de plaisir. Et rien ne pouvait m'empêcher de faire autre chose. À ce moment-là, je suis dans un grand lycée parisien. Et pour vous dire, conseiller d'orientation en terminale, qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine, après le bac? Donc moi, je dis, bah, je vais faire un doc de philo, parce que mon père, il voulait que je garde des études, etc. Et une école de danse. J'ai eu mon bac. Et après, bah, après je suis rentrée en école de danse. Et là, la danse a pris beaucoup d'ampleur. C'était la première formation professionnelle de danse hip-hop à l'époque. Donc on est en 2002. Du coup, je fais cette formation où je danse tous les soirs, tout le temps. Et donc dedans, on avait les cours un peu théoriques, de la technique, de la pratique, du freestyle. Et après, on avait des examens. Je touche du doigt mon rêve. En fait, je suis dedans, puisque du coup, j'ai fait quelques créations. Je commence à donner des cours. Je répète... Je fais des stages, j'ai fait quelques clips, on fait des projets à plusieurs. J'ai appris à me connaître en faisant tout ça. J'ai appris à savoir qui j'étais et à quoi j'aspirais un petit peu. Et même si on le remet en question régulièrement, ça aide dans la vie de savoir un peu où est-ce qu'on a envie de se placer dans ce monde. Et du coup, je décide de partir en stage et je pars plusieurs mois faire que des cours dans toutes les écoles de Los Angeles. Mais un truc incroyable. Mais je crois que c'est ça qui a mis un peu la fin de mon projet d'être danseuse. C'est que pour moi, j'avais réalisé un rêve de fou. J'avais dansé avec les plus grands chorégraphes. J'avais découvert la danse aux États-Unis. J'avais vu une compétition de danse hip-hop à Las Vegas. Enfin, c'est un très, très bon souvenir. Je donne des cours pour une association 2 fois par semaine. Je me dis, un des espaces où je pourrais et faire de la danse, et faire de l'activité, et être dans l'énergie... c'est de faire de l'animation avec les enfants. Du coup, bah, je passe mon BAFA, donc je fais ma formation théorique, je trouve un poste et je fais du périscolaire dans ma ville. Et donc, je passe cet approfondissement où, à l'époque, je passe l'AFPS, l'attestation de formation au premier secours, qui est aujourd'hui le PSC1. Et pendant cette formation, mais je découvre un monde. Je m'éclate à faire cette formation premier secours. Je trouve ça génial. Donc, tout de suite après mon BAFA, je me dis, mais où est-ce que je peux faire ça, mais encore plus poussé? Et un des espaces où je peux faire ça, c'est la Croix-Rouge française. Et donc, j'envoie un petit mail, un petit message à la Croix-Rouge de ma ville. Et je commence à être bénévole à la Croix-Rouge et à faire pas mal de gardes, de postes de secours. Et j'adore ça. Et là, en effet, ma super copine de la Croix-Rouge, avec qui je fais tous mes postes à l'époque, me dit « Mais moi, je travaille au SAMU. Viens travailler avec moi. » Et j'envoie mon CV pour être assistante de régulation médicale. Les assistants de régulation médicaux, c'est les personnes qui décrochent les appels du 15 et recensent ce qui se passe, récupèrent l'adresse et envoient les moyens de secours. Et donnent les premières consignes de secours par téléphone. Donc, en gros, c'est le premier maillon de la chaîne du soin d'urgence. Et je découvre un métier qui n'a rien à voir avec tout ce que je fais depuis le départ. Voilà, je découvre un monde. On est face quotidiennement à la détresse, à l'urgence, et on est au point culminant de la vulnérabilité des êtres humains. C'est l'apprentissage d'un autre métier, en fait, d'une autre vie, en fait. Quand je rentre au SAMU, j'ai une fille qui a presque un an, pas encore. J'y reste 3 ans et demi. Et je trouve ça génial. Donc du coup, j'ai envie de comprendre. Donc les médecins, je vais leur poser des questions. Je leur dis, mais pourquoi ce monsieur-là, il appelle alors que... Et donc du coup, ils vont m'expliquer. Et puis les infirmiers anesthésistes qui sont dans les camions. Moi, chaque fois, je leur dis, alors, c'était comment l'intervention? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Notamment un qui est devenu mon mentor par la suite. Je crois que je l'ai harcelé de questions. En plus, on nous permettait de temps en temps, pour nous mettre un peu en lien avec le terrain, on nous autorisait à monter dans les camions pour aller voir ce qui se passait. Et là, j'ai découvert aussi ce que c'était que la réalité du soin, et donc là, du soin d'urgence. Mais je l'ai vécu, en fait. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vécu cette adrénaline-là avec eux. J'ai une admiration sans borne pour ces gens-là. Une qualité humaine et technique incroyable. En fait, je pose plein de questions. Et puis forcément, tout le monde me dit « Mais pourquoi tu fais pas infirmière ?» Il faut le temps que ça chemine. Mais en fait, oui, ce qui me titille, c'est d'aller de l'autre côté du téléphone. Le téléphone, c'est bien, mais moi, j'ai envie d'aller voir les gens en vrai. Et jusqu'à ce que j'ai mon mentor infirmier anesthésiste qui, un jour, me pose les bouquins sur la table et me dit « Bon, allez, il faut préparer le concours maintenant. Ça y est. » Donc, je passe au concours infirmier. Et à ma grande surprise, je l'ai. Croire en ses rêves, c'est beau de dire ça, croire en ses rêves. Maintenant, c'est croire en soi, je crois, qui est hyper important. Et à partir du moment où j'étais dans cette dynamique-là, ce que je veux, je l'aurai. Et bien, il y a un moment pour l'avoir, il faut te donner les moyens. J'ai mon concours et donc, du coup, je rentre à l'école financée par mon employeur. Et comme en parallèle, je suis séparée du père de ma grande, je me retrouve à vivre toute seule avec ma fille et aller à l'école la journée et m'occuper de ma fille le soir, qui elle aussi rentre à l'école puisqu'elle rentre en maternelle. Pendant mes études, c'est compliqué parce que les études, les cours, il faut tout assurer. Le côté maman solo, on va pas se mentir, la charge, elle est monumentale. Il faut être partout en même temps, il faut gérer les stages, la pression, les examens. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir une maman, notamment, qui habite à côté de chez moi, qui est hyper présente, qui a joué un rôle primordial dans tout ça parce que quand je finissais à 20h, il fallait bien que quelqu'un aille chercher mon enfant à l'école. Ma mère, elle s'en occupait. Quand je travaillais de nuit, il fallait bien que ma fille dorme avec quelqu'un. Donc, c'est ma mère qui dort avec elle. Sans elle, je pense que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. C'est une reconversion dans le sens où je change complètement de métier. Déjà, la reconversion, elle a commencé au SAMU. Et en même temps, pour moi, ce n'est pas une reconversion, c'est la suite de ce que je suis, en fait. Je ne change pas de vie. Je continue ma vie, mais je m'approche de ce que je suis. Je pense que toute notre vie, on se construit, on prend des décisions. Je pense que le projet, c'est d'être au plus près de ce qu'on veut être et d'être en accord avec soi-même. 3 ans d'études, avec du coup ma petite fille à 6 ans, là, maintenant. J'obtiens mon diplôme. Et ouais, là, c'est un aboutissement. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce diplôme, c'est quand même hyper valorisant. Et au final, premier poste que je prends, c'est de la réanimation pédiatrique. Et la petite histoire, c'est que j'ai pris en charge un enfant pendant plusieurs mois, qui avait 11 ans à l'époque, qui a eu une histoire de vie, mais très compliquée. Il a fait 2 arrêts cardiaques avec moi. Et à ce moment-là, à l'hôpital, il était dans une phase très déprimée. Il était encore intubé. Et toute la journée, il écoutait un rappeur. Mais quand je vous dis toute la journée, c'est jour et nuit. Et il allait pas bien. Et du coup, je lui dis, mais t'aimerais bien le rencontrer? Vraiment? Et ils ont des petites ardoises pour nous répondre. Et il m'écrit même pas cap. Ouais. J'appelle l'éducatrice du service, je lui dis, on a un défi. On a dit, on va aller le chercher. Ça nous a pris quelques semaines. On a réussi à trouver le mail du manager. Enfin bon, ça a été tout un truc. Hein. Et un jour, on nous dit, comme il vient demain pour les Energy Music Awards, il sera sur Paris et il a dit qu'il venait vous voir. Et ça a été un moment incroyable. Et il lui a dit, mais en fait, moi, j'ai une chanson pour toi dans mon prochain album. Et il lui dit, dans un an, je passe en concert, je fais ma tournée. Il faut savoir que cet enfant avait été amputé d'une jambe. Et il lui a dit, mais moi, je veux te voir debout à mon concert en train de danser. Et le gamin lui a dit, ok, je te promets. Un an après, on a reçu les places de concert, on a été au concert, l'enfant était debout et chantait cette chanson à tue-tête. Et je crois que c'était juste un moment mémorable et incroyable. Et pour la petite histoire, ce chanteur et qui a été juste incroyable avec cet enfant-là, c'est Soprano. Et la chanson donc qui est inspirée de cette histoire-là, c'est la chanson Miracle sur son album Phoenix. Pour moi, l'hôpital public, c'est la base d'une société qui va bien. En fait, il faut qu'on prenne soin les uns des autres. Et donc, travailler à l'hôpital, j'y trouve une identité. Je me sens utile pour ma société aussi parce que je défends les plus vulnérables et je les protège et je les soigne. Je sais que ce que je leur apporte à ce moment-là, ça a du sens pour eux. Donc, ça en a pour moi aussi. Il faut savoir que ce qui nous rend, entre guillemets, c'est fois mille. Donc, on sort gagnant, forcément. Parce que je pense qu'en prenant soin des gens, on prend soin de soi. Je suis à ma place. Ça, c'est une certitude. J'ai beau chercher, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Prendre soin des gens, c'est un engagement de vie. Maintenant, je vais sûrement évoluer dans mon métier. Mais en tout cas, je sais que mon engagement de vie, c'est prendre soin des autres et des enfants notamment. Le monde est à nous, mais surtout, rien n'est impossible. Est-ce que je me vois faire autre chose ? À l'heure d'aujourd'hui, non. Et en même temps, quand j'avais 18 ans, si tu me demandais si je voulais être autre chose que danseuse, je t'aurais dit non aussi. La différence, c'est que mon métier infirmier me colle à la peau. Mais en fait, mon métier fait partie de mon identité aujourd'hui. Quand je dis je suis Lou et je suis infirmière, en fait, je dis la même chose. C'est ancré en moi maintenant. Et non, je ne me vois pas faire autre chose, c'est-à-dire prendre soin des gens. À l'hôpital, on est face à la vulnérabilité, face à la détresse, à la maladie. Donc en fait, on est au cœur de l'humanité et de ce que ça veut dire d'être un être humain. Donc en fait, ce métier-là, on est au cœur de ce que ça veut dire d'être humain. Mais mon quotidien, c'est de prendre soin des corps et des esprits. Donc c'est la définition d'un être humain.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Hospitalier. La série de podcasts de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, réalisée en partenariat avec Chérie FM. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous pour être certain de ne pas manquer les prochaines histoires. Histoire d'Hospitalier est disponible sur le site et l'application Chérie FM, sur le site mnh.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.